Rapidement, pour peut-être lancer la conversation, deux petites accroches de ma part à Laurent Sébastien par rapport à ce qu'il a dit. Une première question d'ordre méthodologique, c'est le point que tu avais abordé tout à l'heure en tout début de séance, quand tu as parlé de l'observation des faits, de la difficulté qu'on avait à observer ce type d'événement dans lequel l'observateur, enfin l'observateur participant ici pour l'anthropologue, était submergé, cette difficulté à s'en occuper tout seul. Effectivement, c'est un événement qui est tellement foisonnant, avec beaucoup de choses qui se passent partout, le bruit, les odeurs, en plus du visuel, etc. Donc la question est simple, c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta méthode pour observer en tant qu'ethnographe la fête? Comment ça se passe quand tu es sur le terrain? Est-ce qu'il y a des points communs entre différents types de fêtes que tu observes en termes de méthodologie? Voilà, essaye de nous faire, si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus. Et l'autre question est plutôt une accroche un peu plus théorique, mais c'est presque un détail ou une prolongation de la discussion. Tout ce que tu nous as proposé est très, du début à la fin, finalement, très axé anthropologie politique, que ce soit sur l'objet lui-même, sa lecture, son analyse, et puis ton positionnement final, comme tu l'as rappelé. Je trouvais ça très intéressant du point de vue où le carnaval, la fête, rentre tout à fait dans ce que Balandier, en termes d'approche d'anthropologie politique, observait comme une forme de contestation, mais plutôt institutionnalisée. Elle avait tendance à renverser les codes, mais sans pour autant remettre en question, en cause de façon littérale, l'ordre établi, puisque une fois que la fête est terminée, tout rentre dans l'ordre et on continue à vivre dans le monde précédent. Et justement, ces espèces d'interruptions de fêtes qu'on a pu observer me font penser qu'il y a une forme de raidissement. L'interdiction, comme tu l'as dit, est un peu à double tranchant, puisque finalement, elle rend ces fêtes-là non institutionnalisées, donc une contestation absolue. Et pour moi, j'y vois là aussi un motif d'entrée justement des critiques extrêmes, qu'elles soient à gauche ou à droite d'ailleurs, justement parce que la fête est devenue une espèce de levier de contestation radicale du politique. Donc on a un pouvoir qui se veut lui-même très centriste, plus que jamais sans doute, mais qui du coup prête le flanc par ses réactions un peu plus autoritaires, notamment sur ce type d'événement, à des contestations beaucoup plus radicales. C'était peut-être un peu le cas déjà avec les Gilets jaunes, qui étaient un peu le versant contestation non institutionnalisée de la grève. Et là, avec l'interdiction de la fête, on a l'impression qu'on est un peu dans ce même schéma de raidissement. Mais voilà, c'est juste une piste de réflexion que je lance comme ça. Et avec cette ultime remarque, en troisième volet, que ce que tu dis sur la modernité à la fin, je me reconnais beaucoup dans cette analyse, notamment sur le côté rationalisation, qui justement va à l'encontre de la fête et de la déstructuration de la fête, puisque la modernité, c'est non seulement quelque part la volonté de tout rationaliser, mais c'est aussi la promotion absolue de l'idée que tout est rationalisable. Ce qui est assez critique dans la situation actuelle, mais qui, on le voit, est complètement antagoniste avec l'idée même de la fête telle qu'elle est conçue de manière générale et comme tu l'as très bien décrit. Voilà, je m'arrête là, moi, je voulais lancer un peu les débats là-dessus, mais j'attends aussi les réactions de l'assistance. Tu peux peut-être commencer à répondre à ça ou à rebondir si tu veux, et puis on attend les questions de l'assistance derrière.
Ouais, mais volontiers, écoute, merci Jérôme pour ces questions, pour ces remarques. La première est importante, les autres aussi, mais la question de mon positionnement, c'est vrai que là, du coup, comme je l'ai dit au début, je suis confronté à des difficultés pour exposer ma méthode, parce que depuis un an, d'abord, l'objet s'est un petit peu dérobé, comme je l'expliquais. Le caractère illégal ou clandestin de certains de certains événements fait que je ne peux pas y participer librement. En tout cas, je peux peut-être y participer librement en tant qu'individu, en tant qu'individu de ce pays, mais pas en tant qu'ethnologue patenté, hein, puisque moi, j'ai quand même, enfin, je suis professionnel, quoi, donc j'ai aussi un devoir de réserve vis-à-vis de certaines choses. Donc, je ne peux pas librement afficher. Enfin, ou, parce, ça, d'abord, ce n'est pas tellement ma liberté, mais c'est aussi le risque aussi de trahir peut-être des gens qui sont dans une situation que le droit qualifie de mise en danger de la vie d'autrui, hein. Il faut bien quand même poser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une neutralité vis-à-vis de la fête, on est dans une interdiction doublée d'une pénalisation, hein, et d'une assignation à l'illégalité. Bon, donc ça c'est pour la situation actuelle. Maintenant, du coup, j'ai beaucoup usé d'expédients de substitution pour le coup. Bon, je vous ai montré ce film que j'ai trouvé sur Internet. Je vous ai, bon, après, j'ai pu prendre quelques photos ou en faire prendre par personne interposée. Bon, j'ai travaillé à lier le pratique et le théorique. Bon, ça, c'est donc une façon de s'adapter. Y a d'ailleurs un petit séminaire à Amiens là, qui se pose ces questions en ce moment là, sur la fête, à l'université d'Amiens. Des jeunes chercheurs, là, des doctorants qui s'intéressent à comment on fait quand le terrain se dérobe ou quand on n'a pas de terrain. Bon, après, moi, j'ai quand même, dans le passé, fait du terrain. Alors, je peux te répondre aussi sur, de manière plus générale, en dehors de la conjoncture actuelle, comment est-ce que je travaille sur la fête. Y a déjà une manière de croiser la lecture, les sources et les observations. Je ne fais pas que l'un ou que l'autre. Donc j'essaye de faire, avec aussi pour me renseigner, je regarde les prospectus, la paralittérature, là, toutes les annonces. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à, justement aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Il y avait beaucoup de publicité autour des fêtes ou pour les fêtes, beaucoup d'affiches, beaucoup de prospectus, de programmes, des choses comme ça, on les a plus. Alors j'aimais bien donc faire ça, prendre ce que j'appellerais le script officiel de la fête, tel qu'il est, ou en tout cas le script qu'on veut donner à une fête, c'est-à-dire la fête telle qu'elle est vantée par ce type de médias, et puis après, qu'est-ce qui se passe réellement sur place? Donc après, la deuxième phase, c'est d'aller sur place. Et puis alors là, moi, je fais le naïf. Je me pose dans un coin et j'attends. Et puis je reste le dernier. Donc c'est souvent, j'ai fait ça. Je remplis comme ça mes calepins en plantant là. C'est pas forcément facile parce qu'il peut faire froid le soir. Et puis après, il reste pas les plus malins à la fin non plus. Par persévérance, on peut atteindre de bons résultats. Alors, ça peut être fatigant, bien sûr. Donc voilà. Et ça veut dire une présence physique, hein. Ça veut dire que je suis présent par corps, moi, dans la fête. Je suis là et j'y reste. Voilà pour la méthode. Après, je fais aussi des entretiens, je fais des tas de choses. J'ai même fait de la statistique, hein, la statistique à la bistrot des ethnologues pour corréler, pour corroborer les données. Pas de la statistique trop mathématique. Voilà, j'essaye d'avoir un maximum de différentes méthodes pour saturer les données, comme on dit, pour avoir maximum d'éléments sur les fêtes que je documente. Et j'ai fait ça dans différents types de fêtes. Après, ton autre question, enfin, tu as une autre question qui concerne le politique. Ben oui, évidemment, c'est politique. C'est politique à la fois, et alors pour le coup, c'est à la fois politique au sens aristotélicien du terme, hein, au sens noble de la police, de la sociabilité générale ou de la socialisation, hein, mais c'est aussi politique au sens de la politique politicienne, quoi, comme tu le soulevais. Comme tu le signalais, on est enfin dans quelque chose qui peut-être relève plus des sciences politiques que de l'anthropologie pour comprendre ce mixte d'austérité et de libéralisme ou de radicalité et de centrisme. C'est assez surprenant. Je pense que tu as tout à fait raison d'évoquer les gilets jaunes. Mais personnellement, moi, j'ai pas tellement. Si je me suis intéressé aux Gilets jaunes, on a fait un colloque avec l'Association française des anthropologues il y a 2 ans à Montpellier, justement, avec les copains du bistrot étaient là d'ailleurs, la plupart. Et on a beaucoup parlé des Gilets jaunes. Mais j'ai pas systématisé pour l'instant, la relation, mais tu m'invites à le faire, quoi, hein. Donc là, je crois que ce serait intéressant sur fond de contexte, donc depuis des 10 dernières années, de voir comment les choses ont évolué à travers comment les gilets jaunes sont un révélateur de la fragmentation dont je parle, hein. De même que aujourd'hui, le sauve-qui-peut, chacun sa fête clandestine, est un autre symptôme de cette même tendance à la fragmentation. On pourrait sans doute donc systématiser ces observations et mettre là-dedans aussi d'autres épisodes de contestation sociale comme les émeutes raciales ou enfin antiracistes aux États-Unis et peut-être des choses qui se passent, des mouvements sociaux qui se passent. Enfin, je crois qu'en ce moment, il y a en Birmanie, là, ça chauffe. Donc, je veux dire, je suis assez humble dans ma posture parce que je suis européaniste et que je travaille d'abord autour du proche, mais ça ne m'empêche pas, en tant qu'anthropologue, d'essayer de faire le lien avec le reste, et je ne pense pas qu'on est indépendant du reste du monde, au contraire. Donc ça, c'est peut-être une manière de répondre au troisième volet de ta question sur la modernité, parce que la modernité, c'est un bain, et on est dedans, quoi. Je ne sais pas si
Merci
tu as...
Laurent Sébastien pour tous ces éclairages. Je vais passer la parole à Alexis. On a deux autres commentaires sur le chat. Je vais les lire rapidement. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, nous dit Tonio, à propos des fêtes sauvages, en termes d'inconscience et d'irresponsabilité des participants, j'ai pu observer dans le cadre de mes terrains festifs récents, à l'inverse, une forme de conscience partagée, de responsabilité assumée en termes de risque. Les participants ne peuvent ignorer le risque sanitaire actuel et pourtant se rendent à des fêtes. Le sens de la fête elle-même redevient central dans la justification des présences, peu relayée dans les médias. La nécessité du rituel a pourtant été revendiquée par un grand nombre de personnes à Marseille, par exemple, et pas seulement le besoin de s'amuser. Tonio termine par une question. Un retour du sens pour une légitimation. Voilà. Anaïs. D'accord. C'est Anaïs, ok. Autre question autre remarque de Baudouin. Donc merci pour cette présentation. J'ai une petite question qui concerne le terrain de recherche et notamment son glissement vers une éventuelle ethnographie de la manifestation. Peut-on dire qu'il y ait des liens entre fêtes et manifestations dans cette période de restriction? Je fais entre autres référence aux récentes manifestations à Montpellier qui prenaient des tournures de fêtes populaires. Merci. Ah oui, donc. Tonio, c'est Anaïs, pardon. Merci. Donc, Anaïs Vaillant, qui posait la première question et donc qui faisait des observations sur les faits qu'elle a pu observer récemment. Et on va donner peut-être la parole à Alexis, qui avait, je crois, une autre question.
Tout à fait, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaitais vous remercier, Monsieur Fournier, pour cette présentation, notamment de la part, enfin, du fait de mon implication latente en tant qu'acteur de réduction des risques et des dommages en milieu festif, dans le cadre, enfin, avec une association strasbourgeoise qui s'appelle Nomitac. Donc, on intervient très prosaïquement dans des festivals, des fêtes, etc., comme vous avez pu le mentionner par rapport à votre ami René, si je ne m'abuse. Et donc, en fait, ma question va concerner un point assez précis. Je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais peut-être que vous pourrez me donner des indications. Dans le cadre de mes recherches sociologiques actuelles, je m'intéresse au bénévolat et au militantisme dans ce cadre d'intervention sociale. De réduction des risques en milieu festif. Et je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait peut-être à d'autres époques ou dans d'autres aires géographiques, ces personnes qui, dans un sens, guident les fêtes ou qui, peut-être, accompagnent les fêtards dans leur voyage festif, si j'ose dire, ou dans voilà, dans leur expérience de la fête, à l'aide, comme on peut le faire avec mon équipe, par exemple, lors d'une soirée festive. Je vous remercie.
Merci. Alors, je ne sais pas comment je procède. Je réponds peut-être d'abord à cette dernière question. C'est une question qui peut nous entraîner assez loin. Donc là, effectivement, ouais. Alors, l'anthropologie, moi, je dirais oui. Vous me tendez une perche, là. Ce n'est pas possible. Je le fais exprès. La réduction, bon, alors, bon, moi, je n'ai pas travaillé précisément en tant que sociologue de la réduction des risques. Je suis modestement sociologue des loisirs sportifs et des jeux traditionnels, mais je n'ai pas travaillé, je n'ai pas fait d'enquête sur ce point. En revanche, la manière dont vous posez la question ouvre un débat entre sociologie et ethnologie, anthropologie, parce que, surtout du point de vue de l'anthropologie historique, on a des choses. Alors, je ne veux pas tellement parler du guide mystique, parce qu'on pourrait répondre à votre question de cette manière-là déjà, et supposer que dans les sociétés traditionnelles, il y avait des guides mystiques, des chamans, donc, qui effectivement dispensaient la drogue, disaient aux gens comment il fallait faire. Éventuellement susciter des visions, mais ça, c'est des choses dont vous pouvez entendre parler. Alors ça, je vous renvoie la société psychédélique française et les films qui ont été passés là, il y a un an ou deux. Il y a eu ce film sur la découverte des champignons hallucinogènes au Mexique. Qui montre un de mes éminents collègues, d'ailleurs, un responsable du muséum qui enquête sur des chamans amérindiens au Mexique et qui leur donne ce rôle-là. Donc là, il y a toute une littérature d'anthropologie qui pourrait aller vers là, mais oui, je vois, vous indiquez dans la discussion le lien. Merci. Là, il y a une manière d'utiliser l'anthropologie qui est une manière un peu enchanteresse, quoi, hein. On va chercher ce qu'on aimerait bien trouver dans un passé lointain, mais en fait, c'est assez hypothétique, quoi. Donc, l'administration de la preuve, puisque vous êtes sociologue, elle est assez peu poussée si on fait référence à ces choses-là. En revanche, du point de vue historique, il existe des meneurs dans les fêtes. Il existe tout à fait cette personnalité du guide festif ou de la. Alors, bon, entre pairs. Hein, donc, alors, moi, j'ai enquêté beaucoup sur des fêtes traditionnelles du sud de la France, mais en fait c'est un système qui existait aussi en Poitou au XVIIe au XVIIIe siècle. On a des noms pour ça, les abbayes de jeunesse, les bachellerie, les capitanages. Donc, et en fait c'était des institutions, c'est pas seulement une personne qui servait de guide, c'était la classe d'âge qui guidait la fête. Et on confiait aux jeunes l'organisation de la fête du village. Avec donc sur le moment la capacité de cette jeunesse à se maîtriser, à trouver des lieux aussi. Chloé Rosati est là, elle m'avait permis d'assister il y a quelques années à un banquet d'une telle confrérie hein, qui était donc réservée. Et donc on a le groupe de la jeunesse, alors c'était genré, hein, c'était masculin plutôt, hein, mais dans le contexte, c'est normal, dans le contexte d'une société traditionnelle hein, du 18e ou du 19e siècle. Et on avait donc toutes ces associations locales qui de toute évidence, jouaient ce rôle-là, parce qu'on était ensemble, on était séparés des parents et du groupe des anciens. On faisait ce qu'on voulait, mais en même temps, on savait qu'on était entre soi. Donc, la logique de l'entre-soi fait que le lendemain, il fallait quand même qu'on se retrouve peut-être à la messe ou qu'on se retrouve à la procession. Et donc, on se tenait quand même les uns les autres. On se tenait les uns les autres. Et donc, ça, c'est une logique très classique dans les fêtes traditionnelles des régions françaises, des régions européennes. C'est un guidage entre pairs, un guidage entre pairs à partir de la classe d'âge. Donc après, ça a été récupéré par la conscription, ça. Donc bien souvent, c'était les groupes de ceux qui partaient à la guerre, à l'armée, qui étaient donc les conscrits de l'année, qui avaient 18 ans. Et on trouve encore ces fêtes en Beaujolais ou dans l'est de la France, même s'il n'y a plus la conscription aujourd'hui, s'il n'y a plus la. S'il y a plus si on n'est plus appelé sous les drapeaux, quoi. Mais ça continue d'exister. Et là, c'était parce que les gens, ils allaient partir à la guerre, donc ils risquaient aussi de pas revenir. Donc, ils faisaient une grosse fête avant de partir. Mais cette fête, elle se faisait aussi dans le cadre de ce groupe de jeunesse. Et ce groupe de jeunesse, à un moment, enfin, on l'a dépossédé de ses prérogatives. Aujourd'hui, l'âge, alors comme il y a beaucoup de gens, ouais, enfin, l'âge des hommes politiques, il est plutôt élevé. On peut dire, je crois que la modernité a justement, du fait de cette volonté de rationaliser, s'est méfié des pulsions, des passions juviniles et a récupéré complètement le pouvoir. Donc, on se retrouve. Alors que, en fait, ça fonctionnait bien parce qu'en Provence, au XVIIIe siècle, les jeunes, ils faisaient la fête ensemble, bon, ils se tenaient les uns les autres, et puis après, souvent, on les retrouve. Après, ils devenaient consuls quoi, ou maires de leur village. Ça les intégrait aussi. Ça avait une capacité intégratrice, cette façon de faire la fête entre soi. Après, moi, je parle de ça, mais sans être idéaliste hein, vis-à-vis de ce temps passé, parce qu'il y avait des concurrences, il y avait une compétition une compétition d'ego. Il y avait des vexations, il y avait aussi une compétition pour les filles. C'était dur hein, comme monde, hein. Je ne dis pas que c'était facile. Hein. Mais oui, ça existait pour vous répondre, ça existait comme dispositif collectif et comme institution sociale. Et celui qui a bien parlé de ça, c'est Maurice Agulon, l'historien, à propos du 18e et du 19e siècle provençal. Voilà.
Gaëlle a une question. On va laisser la parole pour la poser. Si Baudouin ou Anaïs veulent reprendre la parole aussi pour reposer leurs questions ou donner plus de détails à propos des commentaires qui ont été énoncés tout à l'heure, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Donc, merci Alexis pour cette question. Gaëlle prend la parole. Puis peut-être après Baudouin et Anaïs, s'ils veulent reprendre le fil de leurs commentaires.
Oui. Oui, ben merci pour cette présentation. Effectivement, c'est une petite question en lien avec l'actualité, une remarque en fait, parce que je vois que tu tires sur plein de fils qui font qu'au fur et à mesure, Bon, voilà, ma question, elle est très, très simple. C'est sur le rapport de confiance, en fait. En fait, on va dire les processus d'ouverture et de fermeture, en fait, qui se nouent à travers les fêtes et que vient réactiver, en fait, le Covid. Donc, on va pouvoir effectivement... quand on participe à des fêtes enfin, clandestines ou juste des fêtes qui juste débordent en fait, du couvre-feu et qui voilà, ben, en fait, c'est vrai que y a une petite part de risque, mais ça renoue aussi avec la question de la confiance parce qu'en réalité, on va à des fêtes où on se sent légitime d'y aller, où on va considérer. Qu'on est en fait protégé aussi pour y aller d'une certaine manière, enfin sans avoir nécessairement d'ailleurs le petit vaccin ni quoi que ce soit. Donc je trouve que ça recrée une forme d'entre-soi aussi, mais peut-être que c'est pas vécu exactement de la même façon selon selon les populations, les rapports de classe en particulier, hein. Parce que je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est vrai qu'on voit apparaître de plus en plus, là, récemment, il y a eu la petite fête au ministère de l'enseignement, le ministère de la recherche, là, qui a fait pas mal réagir, sourire, enfin, tout, voilà, et en même temps, quand tu parlais des fêtes après le travail, on peut y voir ça, et en même temps, là, pour le coup, c'est très, très choquant. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de... C'est immoral. Et en même temps, on a envie de se dire, mais comment dire, si on laisse ça... Enfin, comment dire, est-ce qu'ils ne viennent pas eux-mêmes légitimer la pratique ou... Enfin, bon, voilà, c'est un peu naïf aussi de dire ça de ma part, mais... Enfin, bon, voilà, parce que j'ai regardé la vidéo par curiosité, bien évidemment, et puis apparemment, il y a de plus en plus de sujets là-dessus, donc je trouve que c'est quand même intéressant. Surtout depuis ce qui s'est passé avec la fête, la rave party, etc. en Bretagne, où tout de suite c'est parti au quart de tour, alors que les gens... Enfin, c'est la question de la responsabilité... Enfin, voilà, il y a une question de responsabilité individuelle quand on va dans un événement tel que celui qui a toujours existé dans la fête. En fait, quand on va dans la fête, on y va parce qu'on va retrouver des gens, mais aussi parce qu'on est prêt à suivre des gens qu'on ne connaît pas forcément... bref, je parle un peu, mais je trouve que voilà, dans la fête, il y a des formes de fermeture, mais aussi des ouvertures très fortes qui se déclenchent dans ces moments-là, quoi. Le fait de partir ensemble, de continuer la fête le lendemain, le surlendemain, et ben là, il y a des rapports de sociabilité très forts, quoi, qui sont Donc ça, c'est un peu c'est mis à mal. Ça a été, comme tu dis, substitué par les apéros, je sais pas quoi, là, pendant le premier confinement. Je pense pas que ça ait persévéré trop, quoi, mais voilà, je trouve que c'est en tout cas, c'est une période très, très trouble, hein, comme tu le dis, et qui pose plein de questions, quoi. Voilà. Merci. C'est pas vraiment une question.
Très trouble.
Bah, trouble pour la fête, quoi. Enfin, trouble.
comme le pastis, alors.
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est trouble, hein, le pastis. Hein. Ça aussi, hein.
Mais ouais. Je n'avais pas pris ce soir pourtant, mais j'aurais peut-être dû.
pour supporter tout ça, ouais. Non, mais je pense, Gaëlla, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça soulève quelque chose que moi, j'ai un peu mis de côté, et alors que c'est assez évident. C'est la place de l'inattendu, la place de... Enfin, c'est comme ça que j'entends ta réflexion, quoi. La place de l'impromptu. La place de l'impromptu. Dans la fête parce que on était habitué au fond on s'était habitué à ce que tout soit organisé même les fêtes et à un moment j'ai parlé de ça du secteur de l'événementiel festif qui était devenu un immense truc quoi, avec les festivals aussi, bon, il y a des tas de gens qui allaient de festival en festival mais en fait qui faisaient la fête, mais qui ne se rendaient pas compte qu'en même temps, ils étaient aussi peut-être otages d'une logique commerciale et qui consommaient de la fête, finalement. Donc, la fête est devenue, depuis 30 ou 40 ans, était devenue un objet massif de consommation avec un enjeu fort qui était de remplacer la société industrielle déclinante par une société des loisirs, une société tertiaire, enfin des services festifs. Donc, hein, et ça, en fait, c'était massif, on ne le voyait même plus. Et ce que tu dis là, c'est que c'est que enfin, l'absence de fait et puis l'interdiction de fait nous rappelle à des caractéristiques fondamentales de la fête, dont ce côté inattendu, impromptu, dont on peut effectivement profiter, alors que peut-être que c'était en train de se perdre, ça. Alors, tu parles d'ouverture et de fermeture, ouais. Mais moi, j'aurais tendance à transformer ta remarque un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est...
Ouais, ouais. Et juste, et sur, du coup, sur l'effet Covid, juste pour finir, c'est du coup, il peut y avoir en plus le cluster qui arrive, quoi, qui vient clôturer la fête, quoi. D'une certaine manière, dès lors qu'on voilà, on va se faire tester, je sais pas, le lundi matin, et en fait, mais qui a transmis, ben voilà, tu vois, je sais pas, il y a un côté où c'est une période aussi, mais voilà, le fait d'y avoir été, voilà, et qui a ramené la mauvaise bête, qui est-ce que enfin, il y a aussi ça, c'est pour ça que je parlais de confiance, quoi, parce que du coup, ça vient un peu mettre à mal ce qui, normalement, on est là tous ensemble pour faire la fête. Et dans l'esprit de la fête tel qu'il est généralement conçu, c'est qu'on est tous là pour prendre du bon temps ensemble, quoi. Or là, il y a ce truc qui vient un peu se nicher en mode bon, ben voilà, quoi, on ne sait pas, tu étais à la fête machin avant-hier, donc il y a eu un cluster, donc voilà.
Ouais.
C'est ça.
Oui, c'est encore plus que jamais la roulette russe, quoi.
C'est ça. Merci en tout cas.
Merci à tous les deux. On peut passer la parole à Anaïs, peut-être, qui va reprendre un peu les grandes, enfin, ce qu'elle nous a laissé en commentaire et développer un peu plus, peut-être. Moi, je t'entends mal, Anaïs, pour l'instant. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres.
Mauvais son. Hein. Pas bien. Tant pis, ouais, je peux réagir. À ce que tu disais peut-être,
ouais.
Mais ça rejoint dans une certaine mesure la remarque de Gaëlla, peut-être. Ouais, tu, on avait discuté de ça, de cette prise de conscience d'un moment qui est précieux. Hein. Je crois que c'est peut-être ça que tu voulais souligner. Un moment qui était finalement un peu galvaudé, puisqu'il y avait cette multiplication de fêtes, cette impression. Il y a des gens depuis un an qui disent on avait l'impression de ne plus pouvoir suivre le rythme, quoi. On avait l'impression d'avoir trop de sollicitations, et peut-être que il y a ce paradoxe d'un monde qui restreint les possibilités, mais enfin, cette situation, elle se conclut par on a moins de possibilités, mais on est plus à plein dans les quelques possibilités qu'on a, où on a plus de possibilités de se développer pleinement dans les quelques lieux que l'on fréquente. C'est optimiste, c'est positif. Comme perspective. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu voulais suggérer quand tu disais que le sens de la fête s'accroît, et quand tu disais qu'on avait plus conscience des relations qu'on pouvait avoir pendant ces fêtes sauvages.
Est-ce que ça marche, là, vous m'entendez mieux?
Ah oui, là oui. On retrouve la professionnelle du son.
Oui, ben oui, ça, c'est oui, le sens de la fête. Et pour faire le lien avec ce que disait Gaëlla, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans les médias sur l'irresponsabilité ou l'inconscience des gens qui faisaient la fête à Marseille, moi j'aurais plutôt observé l'inverse, c'est-à-dire personne ne peut ignorer actuellement les risques liées au Covid et à l'épidémie. Et donc, les gens étaient tous en conscience dans la rue à faire la fête. Et donc, il y a justement une responsabilité et une conscience partagée de ce risque qui est pris. Et ça, c'est aussi intéressant parce que le sens de la fête, c'est-à-dire là, par exemple, carnaval, devient un appui supplémentaire, une légitimation de la présence de la fête. Et donc, c'est une forme d'ethnologie populaire qu'on retrouve dans la rue avec les arguments de la nécessité du rite, de la nécessité de marquer le temps, le calendrier. Et donc, en fait, il y a bien autre chose que ce qu'on raconte dans les médias de ces fêtes, ce qu'on relate de cette nécessité de s'amuser. Ce besoin que les gens, les jeunes aussi, parce qu'on dit que ce sont les jeunes ont besoin de s'amuser. Or, on est bien face à quelque chose, comme tu l'as expliqué depuis tout à l'heure, de bien plus complexe et qui, effectivement, je trouve, donne au sens une autre énergie aussi dans la fête elle-même, c'est-à-dire que ça se réapproprie encore plus le fait de connaître l'existence de cette fête, pourquoi elle existe, depuis quand, qu'est-ce qu'elle raconte dans cette ville, dans ce quartier. Enfin, voilà. Et ce sont des appuis de légitimation. Et donc, les gens s'approprient ce sens-là pour se légitimer dans la rue. Et donc, tout ça avec une pleine conscience et une pleine responsabilité des risques qu'ils prennent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez, en tout cas, nouveau dans mon observation à moi. Cette étendue de la conscience festive.
Oui, c'est très clair. Mais en fait, ce que tu dis là, ça fait référence à des conceptions antagonistes de la notion de risque aussi, hein, parce que on a, enfin, la société, la classe politique. À intérieur, et pas seulement les assurances, enfin tout, les entreprises, enfin les investisseurs, il y a toute une classe à la fois politique et sociale et économique qui a fait sienne un concept de risque qui n'est pas la même chose que la perception locale du risque. Il y a eu un travail depuis 30 ans, mais c'est Ulrich Beck qui en parle déjà dans la société du risque dans les années 90. Il y a eu un travail de raffinement de la notion de risque pour finalement arriver à imposer cette notion comme un fait d'intérêt général. Et alors que le risque tel qu'il est perçu à l'échelle individuelle, c'est tout à fait autre chose. Parce que, comme tu le dis très bien, on prend les risques, on prend des risques, mais enfin, il n'y a pas de vie sans risque, il n'y a pas de situation sans risque. Donc, on prend toujours des risques en fonction de là où on se trouve et du contexte qui est le nôtre. De sorte qu'on ne peut pas s'arrêter complètement de vivre parce que, quelque part, la notion de risque a été théorisée différemment de ce que nous, on le perçoit. Donc, je crois que c'est là les gens réagissent à une conceptualisation ou s'opposent à une conceptualisation de la notion de risque qui vient d'en haut et ils assument les risques. Et c'est très juste donc, ce que tu dis, qu'ils s'amusent, mais c'est quand même... Alors, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, on n'a jamais eu autant de gens à Marseille pour le carnaval. Donc ça, c'est vrai que peut-être il y a eu peut-être 10 fois plus de gens que les années habituelles, ou 3 fois plus, quoi. Et en même temps... Donc ils s'amusent, mais en même temps ils sont venus pour s'amuser, mais en même temps ils savent qu'ils prennent des risques. Donc il y a cette double injonction contradictoire là, qui est au principe de la situation que tu décris.
Alors j'appelle toujours de nouvelles questions. Merci Anaïs et merci. Alors Sébastien. Baudouin ne souhaite pas prendre la parole, il dit que tout est dans son commentaire, il souhaiterait vraiment savoir si effectivement ce thème, ce glissement qu'il y a entre l'étude de la fête vers un glissement vers l'anthropologie, l'ethnographie de la manifestation est d'actualité. Est-ce qu'il y a des recherches qui se font? Est-ce que toi-même, Laurent-Sébastien, tu t'intéresses à cette thématique, ce glissement de la fête vers la manifestation? J'imagine qu'on entend ici par manifestation plus politique et plus particulièrement, précise Baudouin, en contexte de Covid. Voilà. Il se demandait si manifester n'était pas aussi un moyen de recréer un autre type d'espace festif ou autre.
Mais le débat de la relation entre fête et manifestation, il est ancien, parce que dans les manifestations politiques, il y a toujours un aspect festif, ne serait-ce que les chants, les couleurs, les banderoles. L'imaginaire du carnaval, il est lié à l'imaginaire du renversement de l'ordre établi. Donc, il y a des liens anciens, et de toute évidence. Mais pour la période que nous vivons, là, pour l'actualité, il y en a aussi des liens. Alors, il y a eu comme ça, depuis janvier, beaucoup d'observations, beaucoup de situations où la musique, les ravers accompagnaient, donc se faufilaient dans les manifestations, et puis il y avait une frange de la manif qui partait en fête techno. Donc ça notamment sur les manifs contre la loi, je ne sais plus comment elle s'appelle, la loi sécurité, c'est quoi, sécurité globale, sécurité globale. Donc là, en janvier, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Lyon, il y a eu Nantes. Ça a été observé comme un fait récurrent. Donc après, est-ce qu'il y a débat? Vous savez, les scientifiques, dans les sciences sociales, on travaille toujours avec un peu de retard. On n'est pas très, très réactif. On n'est pas très nombreux non plus. On n'est pas très puissant, on n'est pas très relayé par la presse, mais je dois dire qu'il y a un journaliste d'une revue qui s'appelle Technicart qui m'a posé cette question et qui m'a consenti une interview le mois dernier sur cette question exactement. Donc c'est qu'il y a débat. Je ne peux pas dire que les sciences sociales sont déjà saisies de ce débat. Mais il existe. Les arguments qu'on peut donner, c'est que soit on considère que c'est un lieu refuge, hein, donc dans la terminologie que j'avais donnée, ce serait exploiter les marges de tolérance. Donc il y a une manif qui est autorisée et hop, on en profite pour faire la fête, pour passer un après-midi dansant. Un après-midi en ville, en suivant le cortège, et on fait d'une pierre deux coups, hein, on défend une cause politique et en même temps on fait la fête. Donc c'est une possibilité, quoi, enfin une possibilité explicative. C'est une option basse, ça, on profite de l'occasion. Et puis, une autre option plus haute, ce serait de dire qu'il y a vraiment une transformation des cultures de la manifestation avec une hybridation des deux choses, quoi, du monde festif et du monde de la revendication politique, et qu'on est dans des formes de création nouvelle, de contestation festivo-politique. Donc voilà, moi je pourrais répondre voilà, un peu comme ça, en demi-teinte. Après, moi, c'est récent, c'est des phénomènes. Je l'ai dit dès le début de mon entretien, hein, c'est d'ailleurs un peu le piège auquel j'ai consenti, ça, du bistrot. on nous invite pour présenter un livre et puis après, on nous fait parler de l'actualité.
Le piège de la temporalité des chercheurs, toujours un peu en décalage, un peu lent, mais soumis à la contrainte de toujours parler d'actualité, néanmoins. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Peut-être dans le prolongement des questions qui ont été posées avant aussi, s'il y a des souhaits de rebond. J'essaye d'être aux aguets d'une éventuelle main qui se lève ou autre. En même temps, nous approchons aussi... Oui, je vois des mains. C'est la famille Le Boulanger, c'est ça? Je crois. Ou quelque... Voilà. Renaud, Anne-Elisabeth, c'est ça? Est-ce qu'on peut leur passer la parole? Ils souhaiteraient poser une question, je crois. Attendez, on ne vous entend pas.
Il faut mettre ton micro.
Il faut cliquer sur le micro, activer le son en bas à gauche normalement. C'est une icône qui est en bas à gauche normalement de l'écran d'affichage.
Ouais, on va y arriver.
C'est fait. Merci. Allez-y.
Non, ça s'est rééteint. Non, ça s'est rééteint. Ah voilà, là c'est bon.
Là c'est bon. Salut. Ouais. C'était, tu sais, j'ai beaucoup voyagé au Brésil et j'ai toujours considéré que nous, notre 1er mai en France, c'était comme le carnaval au Brésil, quoi. C'était un moment échappatoire. Qu'est-ce que tu en penses?
Le 1er mai, la manif?
Ouais.
Ouais. Il y a, ben après, ça dépend un peu des régions parce que je sais que. Dans le nord, dans le Schnorr, donc hein, dans le nord, dans les Hauts-de-France, il y a un lien très fort comme ça de la manifestation politique et de la fête à l'occasion du 1er mai. Ça a été une relation qui a été nourrie par le fait qu'il y a beaucoup de mineurs, donc tous les gens des puits de mine là dans le nord. Après, moi je vois ça. Dans le sud, en Provence, il y a le cas très particulier d'Arles, où on a le même jour du 1er mai, la fête donc de la CGT, enfin tous les communistes et apparentés qui défilent dans un coin de la ville, et puis dans un autre coin de la ville, il y a les catholiques traditionnalistes, les gardiens, des gens qui sont plutôt des conservateurs, quoi, voire ultra-conservateurs. Et y a un contraste très fort, quoi, entre ces deux façons de vivre la fête. Mais néanmoins, ils se retrouvent autour du 1er mai. Le 1er mai, c'est un truc un peu spécial, hein, parce que au départ, c'est bon, il y a des fêtes du printemps romaine au moment du 1er mai, avec des choses qui sont interdites de faire en temps normal et qu'on peut faire, c'est les Rosalia. Dans la période actuelle, enfin la période moderne. Le 1er mai, ça va être à la fois une fête très progressiste, c'est le 1er mai ouvrier, et puis une fête très conservatrice, parce que le maréchal Pétain, il avait remis le 1er mai à l'honneur, il y a tout un tas de rites d'extrême droite aussi, hein, le jour du 1er mai. Donc, c'est une fête un peu particulière, quoi. Et puis, il y a des créations de fêtes. Le jeune Basile m'indique donc que le 1er mai à Nice, on crée aussi la Santa Capellina. Donc, c'est un moment où le folklore peut se débrider, où le folklore peut finalement aller dans toutes les directions, on dirait.
Eh ben, merci de m'avoir répondu.
Et de rien.
Bonne soirée.
Merci aussi pour la question. Je crois que c'est Annette qui précise aussi qu'à Montpellier, les toughers, entre guillemets, participe aux réunions de préparation des manifs sur la sécurité globale et ont des pancartes revendicatives. Voilà. Pour dire qu'il y a des connexions sans doute entre ces différents milieux, celui de la fête et celui de la manifestation, un peu en prolongement de ce qui a été discuté tout à l'heure. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Souhait de prise de parole? Il y a peut-être encore la place pour une ou deux questions, bien qu'on approche des 10 heures, heure cruciale. Je regarde encore une fois.
Le chat qui me pose des questions.
Le chat souhaite toujours participer dès qu'il s'agit de fête, de toute façon, c'est classique. Ouais. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, voilà, il intervient avec un miaou, je ne dirai pas mieux comme mot de fin. Je vous remercie toutes et tous pour ces interventions. Merci Laurent Sébastien, hein, pour ta disponibilité puis ta bonne humeur à nous faire partager toutes ces questions-là, à la fois légères et sérieuses.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ouais. Allez, merci à tous.
Bonne soirée.
Ciao.
Au revoir, merci.